de Savoie, Emmanuel Bastide.
L'école des savoirs, deuxième partie, retour sur l'actualité en France cette fois, alors que de nombreuses réformes sont annoncées par le gouvernement, réforme de l'école primaire, réforme du collège unique, réforme des filières au lycée, réforme du baccalauréat, jamais la querelle de l'école n'a été aussi vive sur le fond, avec des lignes de fracture qui ne correspondent pas au traditionnel clivage gauche-droite. Alors pour débattre aujourd'hui, voici deux auteurs qui publient là, ces semaines qui viennent, des râleries sur l'école en cette rentrée de guerre scolaire, Philippe Mérieux avec son livre Pédagogie, le devoir de résister, et Guy Morel, professeur de lettres au lycée, qui a participé à un ouvrage collectif, La débâcle de l'école, une tragédie incomprise. Philippe Mérieux et Guy Morel, bonjour à tous deux.
Bonjour.
Philippe Mérieux, vous êtes le chef de file de la pédagogie moderne en France. Vous avez été le conseiller de Claude Allègre, de Jack Lang. Non, vous faites déjà non.
Bon. Non, je ne suis le chef de file de personne. Je n'ai pas.
Vous êtes considéré. Alors, vous êtes surtout l'ancien directeur de l'IUFM de Lyon. Là, vous êtes d'accord. C'est un lieu où on en forme les enseignants. Les IUFM en France sont aujourd'hui assez critiqués par certains. Depuis plusieurs années, la France vit une tentation passéiste. On a parfois envie de revenir à une école d'autrefois. Ces derniers jours, en tout cas, on a l'impression qu'il y a un consensus qui s'organise autour de ces idées-là, notamment avec une étude du Haut Conseil pour l'éducation qui a révélé au président de la République il y a quelques jours que 40% des élèves ont de réelles difficultés scolaires à l'entrée en sixième pour lire et rédiger. Alors, est-ce qu'on arrive là à la fin d'une époque, de votre époque, Philippe Mérieux ?
Alors d'abord un mot sur le rapport du Haut Conseil à l'éducation. Si on lit ce rapport, il n'est pas passéiste puisqu'il explique que si l'école a de mauvaises performances à l'école primaire, c'est parce qu'elle n'a pas suffisamment appliqué les réformes qui ont été proposées pendant 40 ans, qu'on n'a pas mis en place suffisamment bien, enfin que j'ai modestement participé peu sur l'école primaire. Je ne suis pas un spécialiste de l'école primaire. Donc le rapport du Haut Conseil de l'éducation reprend des chiffres qui sont bien connus et en particulier la difficulté d'un certain nombre d'enfants à la fin de l'école primaire, et puis le problème qu'a l'école française à combler les inégalités. Nous le savons, ça n'est pas une nouveauté par rapport à des tas d'autres pays éducatifs. Nous peinons pour accompagner les enfants les plus en difficulté.
Alors, ça veut dire qu'on se dit quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'on arrive à une période de rupture nécessaire ?
Moi, je ne sais pas si on peut parler de rupture. Je crois que, comparons avec les autres systèmes qui marcheraient plutôt mieux à la fin de l'école primaire et dans le secondaire, ce qui caractérise l'école française, c'est que on n'y suit pas d'une manière très personnelle et très individuelle les élèves. Voilà. L'école française reste un peu, on va dire, magistrale et monolithique, alors que les écoles qui réussissent plutôt moins mal que nous se donnent la peine d'accompagner plus individuellement, plus personnellement, plus au coude à coude les élèves en difficulté.
Alors précisons que ce rapport dit bien qu'il y a 60% des élèves qui, eux, réussissent très bien.
Tout à fait.
Guy Morel, vous êtes professeur de français dans un lycée au Mans, vous êtes proche du collectif Sauver les lettres. Pour nos auditeurs, vous êtes un peu dans cette mouvance du tout fout le camp. Quelle est, vous, la réalité que vous vivez dans vos classes de seconde, puisque vous enseignez en lycée ?
Bien, je vais vous répondre sur les classes de seconde, mais auparavant, je rectifie. J'ai des amis à Sauver les lettres, mais je suis surtout dirigeant du GRIP, du groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes, qui initie en ce moment des classes expérimentales SLEC, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter et calculer, ce qui est important. Donc je ne me vois pas du tout comme passéiste, et si nos références pédagogiques sont anciennes, à l'évidence, on ne peut se référer qu'au passé, nous envisageons aussi une pédagogie innovante, et qui ne repose pas, je le dis tout de suite avant que M. Mérieux ne me contredise, et qui ne repose pas sur une application sotte de l'autorité.
Mais racontez-nous ce que vous vivez dans vos classes.
Alors,
qui
dans
vous
les classes, en classe de seconde, en classe de seconde, je constate que, après 4 années de collège, l'ensemble des élèves connaît des difficultés. Certains élèves ont plus de difficultés que d'autres, mais c'est bien l'ensemble des élèves, y compris les bons élèves.
Alors, c'est pas du tout ce que vous m'avez dit hier soir au téléphone. Mais voilà, mes élèves, alors, ils sont d'une lenteur effroyable, ils font des fautes d'orthographe partout, ils n'arrivent pas à rédiger.
Oui.
Vous étiez très catastrophiste quand vous m'avez raconté vos élèves au quotidien.
Je venais de corriger 60 copies. puisque quand j'accueille les élèves, j'ai le désir de les connaître individuellement.
Vous leur faites faire un test.
Et donc, je leur fais faire un test qui comporte des questions assez simples, un petit peu d'orthographe, des questions de grammaire, une rédaction de 10 ou 15 lignes. Or, sur ces 60 copies, en dehors de quelques-unes, c'est-à-dire de 2 ou 3, les résultats sont très alarmants. Alors, vous dites que j'étais catastrophiste.
Alors, très alarmant, pourquoi ? Parce que c'est la conséquence de quoi ?
Ben écoutez, c'est la conséquence, je crois, d'une école primaire qui fonctionne mal. On peut s'en expliquer. Et là, sur l'école primaire, bien que je n'y enseigne pas, j'ai fait des enquêtes extrêmement prolongées, à la fois en maternelle et en primaire. C'est aussi la conséquence d'un collège qui fonctionne mal. Alors, je ne parle pas ici, je ne remets pas en cause le collège unique. Non, je ne tombe pas dans le débat habituel du collège unique, etc.
Je dis qu'est-ce qui fonctionne pas ? On n'enseigne pas ce qu'il faut enseigner. C'est quoi le problème ? Les manuels scolaires.
Je trouve que les programmes, de toute manière, sont absolument catastrophiques, mal conçus, qu'on a abandonné un certain nombre de choses qui fonctionnaient remarquablement bien il y a encore 30 ou 40 ans, en grande section de maternelle. Que par exemple, un exemple très précis, on n'apprend plus en grande section de maternelle et en CP les quatre opérations à la fois. Or, c'est capital. Il est tout à fait capital d'enseigner les quatre opérations, les quatre règles de calcul à la fois, puisque la connaissance d'une opération facilite la compréhension de l'autre.
Philippe Mérieux ?
Ah oui, sur ce point-là, je suis totalement d'accord. C'était la méthode intuitive de Ferdinand Buisson. C'était aussi la proposition de Célestin Freinet. La pédagogie qu'on appelle nouvelle a toujours été favorable à cette découverte simultanée des quatre opérations qui se donnent sens réciproquement l'une l'autre. On comprend bien l'une parce que l'autre est claire. Oh, d'abord, un certain nombre d'enseignants le font. Ensuite, on a, c'est vrai, une vision un peu technocratique des programmes. On a découpé. Vous dites très justement qu'il y a une forme de taylorisation de l'institution scolaire qui est assez catastrophique. Et je crois que ça...
Qui en est responsable ?
Je ne sais pas s'il faut identifier des responsables précis. On confond souvent la pédagogie, la didactique. Je voudrais pas rentrer dans ces débats. Moi, par exemple, je ne me sens absolument pas responsable de ce jargon qui a envahi l'enseignement des lettres. J'ai toujours plutôt lutté contre. Je me sens pas du tout responsable du fait qu'on ait abandonné la chronologie en histoire. J'ai toujours milité pour. Je me sens pas tellement responsable du déficit en langue française que je constate et que je regrette. Il y a un vrai problème en orthographe. Il y a un vrai problème de maîtrise de la langue écrite. Moi, j'enseigne maintenant à l'université, mais j'étais encore il y a un an et demi en CM2. Il y a un vrai problème de maîtrise de la langue écrite. J'ajoute que ce problème est un problème scolaire, mais qu'il ne faut pas ignorer que c'est un problème de société. C'est toute notre société.
Ah, alors, c'est la société, c'est l'école, j'ai l'impression
non.
Que
c'est, bah, écoutez, c'est l'école et toute la société.
Écoutez, moi, je suis professeur depuis 1969. La société de 69 commençait à changer, mais elle ressemblait déjà étrangement à ce qu'elle est aujourd'hui, même s'il y a eu des accélérations. C'est les élèves que j'avais à l'époque, et à l'époque j'enseignais au collège, donc à des sixièmes qui sortaient de CM2. Ces élèves, dans leur diversité, n'avaient pas les difficultés que je constate aujourd'hui, et que vous constatez, et que tout le monde constate, en première année de faculté.
Bien sûr.
Donc,
bien
bon,
sûr.
Il s'est bien passé quelque chose qui est d'un autre ordre que la société. C'est bien à l'école qu'il s'est passé quelque chose.
Nous revenons dans quelques secondes. Philippe Mérieux, Guy Morel, nous débattons sur cette fameuse querelle de l'école aujourd'hui. Ah d'accord, ok, c'est bon. Alors très bien, d'accord. Alors refais. Allez. 3, 2, 1, 0. L'école des savoirs sur RFI, l'école française en débat aujourd'hui avec Philippe Mérieux qui a dédié toute sa carrière à la pédagogie et Guy Morel, professeur de lettres dans un lycée au Mans. Guy Morel, à la fin de l'ouvrage collectif auquel vous avez participé, il y a une bibliographie, je voulais quand même citer auprès de nos auditeurs parce que les titres des livres qui ont été mis dans cette bibliographie sont quand même assez inquiétants. La destruction de l'enseignement primaire et ses penseurs. Voulez-vous vraiment des enfants idiots ? Vos enfants ne m'intéressent plus. L'école de la lâcheté. l'autorité, l'enseignement de l'ignorance, l'horreur pédagogique, ça vous en êtes l'auteur. Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry? Nos enfants gâchés, l'enseignement en détresse, l'école du désastre, des professeurs accusent. Enfin, il n'y a plus qu'à sauter par la fenêtre, là.
Écoutez, bon, l'édition a ses règles. Voilà, bien.
Il est un peu dommage que ceux qui défendent la langue et les nuances et qui devraient précisément incarner la nuance tombent dans ces facilités et dans ces clichés. Je voudrais juste dire sur la question de l'écrit quand même, parce que c'est extrêmement important. Moi, j'ai mené l'an dernier un travail sur l'écriture, parce que comme vous, je crois qu'il faut aborder la lecture et l'écriture en même temps. Et que l'écriture donne sens à la lecture comme la lecture donne sens à l'écriture. Je pense que l'écrit est aujourd'hui une grande cause nationale, qu'il est prioritaire. Depuis 69, beaucoup de choses ont évolué sur l'écrit. Depuis 69, on écrit beaucoup moins, même la presse fait des éditoriaux de plus en plus courts, on fait des flashs, on fait des SMS, on fait des mails, on fait toute une série de choses. L'acte d'écrire est un acte qui tombe en désuétude socialement, toutes les études le montrent. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui ne voient personne écrire autour d'eux. Or, l'école n'a pas pris la mesure de cette évolution-là. Elle n'a pas pris la mesure de l'importance de la revalorisation de l'écrit. Ce que les pédagogues auxquels je me réfère disent, c'est bien sûr qu'il faut apprendre le code, comme vous, mais c'est qu'il faut donner du sens à cet écrit. Il faut apprendre le code. Mais qu'il faut donner du sens à cet écrit. Célestin Freinet proposait la correspondance scolaire ou le journal scolaire. Moi, je ne propose rien d'autre. Je dis, faisons écrire. Retrouvons le sens de la correspondance. Donnons aux jeunes les moyens de retrouver le plaisir de l'écrit. C'est une priorité aujourd'hui.
Alors moi, je constate avec beaucoup de satisfaction que, d'ailleurs, que M. Mérieux a lu un livre que je fais paraître avec Michel Delors et qui est un extrait des articles pédagogiques de Buisson.
Mais je connaissais bien Ferdinand Buisson.
Je pense que vous connaissiez
Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, tout le monde connaît. Tout le monde devrait connaître.
Début 20e, okay.
C'est le directeur de l'enseignement primaire de Jules Ferry. C'est celui qui a fait l'école de Jules Ferry. Bien, il fait référence à l'importance de l'écrit. Bien sûr, il faut apprendre à écrire pour apprendre à lire. La pédagogie de Ferdinand Buisson, c'est cela. Et cela a été pratiqué jusqu'à la fin des années 60. Je constate que depuis la fin des années 60, ce savoir-faire pédagogique lié profondément l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ce savoir-faire s'est perdu.
Alors comment peut-on le retrouver? Vous dites qu'il faut retrouver
c'est
de vieilles méthodes,
il faut
réinterroger les anciens, etc. là-dessus.
Je pense que nous avons, au GRIP, nous avons d'abord collecté un certain nombre de témoignages d'anciens instituteurs et d'instituteurs très jeunes qui se sont remis à l'écriture-lecture, à reconstituer ce savoir-faire pédagogique.
Avec des vieux manuels scolaires?
Alors, avec des vieux manuels, avec des cahiers, parce que heureusement, on trouve un peu partout, dans les greniers, dans les écoles, des cahiers des années 50, des années 60, etc. Et on arrive à saisir, à travers ces cahiers, le savoir-faire pédagogique des instituteurs.
Alors là, une réforme de l'école primaire se prépare. Xavier Darcos l'a annoncé. Vous pensez qu'il faut aller dans les greniers pour écrire cette réforme de l'école
primaire?
Nous
ne faisons pas qu'aller dans les greniers. Nous avons fait, il y a une quinzaine de jours, des journées de travail à Roncq, dans le Nord, qui ont réuni 70 instituteurs, des jeunes instituteurs, et des moins jeunes, bien entendu. Et ce qui était à l'ordre du jour, c'est ressaisir les méthodes pédagogiques qui permettent d'enseigner simultanément les quatre opérations, car là il ne s'agit pas seulement d'en parler, il s'agit de savoir le faire et le faire faire, et puis ressaisir les méthodes pédagogiques qui permettaient en grande section déjà de lier profondément à l'acte d'écrire l'apprentissage de la lecture, car ça donne du sens.
Philippe Mérieux?
Oui, je dirais que nous sommes là non pas devant un savoir-faire perdu, mais un savoir-faire à revigorer. Il se passe des choses.
Bon, vous êtes d'accord alors finalement.
Moi, je dis à revigorer, pas nécessairement en allant chercher les vieilles méthodes. Il faut se nourrir.
Parce que votre tir est beaucoup plus combatif quand même.
Ah non, mais attendez, mais moi,
de résister.
Et je résiste au nom de gens bien plus anciens en plus que ceux auxquels se réfère mon collègue, puisque je résiste au nom de Pestalozzi et d'autres qui sont des pédagogues qui ont expérimenté des méthodes pédagogiques dites nouvelles bien avant l'arrivée des râleurs que nous avons aujourd'hui sur l'école. Non, ce que je voudrais dire quand même, c'est que le gamin qui arrive à l'école aujourd'hui, d'abord il a dormi une heure de moins par jour qu'il y a 30 ou 40 ans. On ne le dit pas, c'est la vérité.
Ça change quelque chose?
Ah non, mais attendez, vous avez des enfants qui ont perdu 10 heures de sommeil par semaine. Les enfants sont fatigués, ils sont excités. Ils ne savent pas se concentrer. Ce que devrait faire l'école, c'est prendre en compte cela, évidemment améliorer et modifier les rythmes scolaire, mais ça c'est un problème d'État auquel on ne touchera pas tant qu'on ne voudra pas véritablement ouvrir ce chantier. Mais il faut plus que jamais apprendre quelque chose qui est la véritable question aujourd'hui, c'est la question de la concentration dans le travail et de l'attention. Ce qui fait problème pour l'immense majorité des enseignants en France, c'est pas tellement le chahut, c'est même pas tellement le niveau. À la limite, une partie des enseignants s'accommode assez bien d'élèves faibles. Ce qui fait problème, c'est que les classes sont des cocottes minutes. C'est qu'on entre et que tout le monde papillonne de son côté. C'est que les gamins ne savent pas se fixer sur quelque chose. C'est qu'ils ont une télécommande greffée au cerveau. C'est que, dans les enquêtes que j'ai faites, depuis 1930, en 1930, quand on mettait un gamin de 10 ans sur un puzzle, il restait attentif 15 minutes. Aujourd'hui, on atteint à peine 6 minutes.
Bon, quand on sait, là-dessus, tout le monde est d'accord.
Non, tout le monde n'est pas d'accord.
Mais quand on sait ça, quels sont, respectivement pour l'un et pour l'autre, les urgences pour l'école demain ?
L'urgence pédagogique, c'est de retrouver le sens du vrai travail, de la possibilité pour l'élève de s'investir, c'est-à-dire de ne pas lui imposer des exercices répétitifs dans lesquels il ne voit pas le sens de ce qu'il est en train de faire.
Pour demain, Guy Morel, quelle est l'urgence ? Réforme du collège, du lycée, de l'école primaire ?
L'urgence, il faut commencer par le début. J'ai fait une enquête longue en maternelle. La maternelle française, que l'on a dit longtemps, à juste titre, la meilleure du monde, est aujourd'hui en danger. On y fait des choses absurdes, qui sont faites par des gens,
très dévoués. Après, on conclut.
Chose absurde, on fait en maternelle, en grande section, découvrir la lecture par la méthode idéovisuelle, c'est-à-dire que les mots sont photographiés et on n'apprend pas l'écriture-lecture.
Donc ça pour vous c'est l'urgence, Philippe Mérieux, l'urgence
c'est
demain.
C'est pas vrai, moi je suis souvent dans des écoles Montessori par exemple, où on apprend.
Vous citez les écoles Montessori, Vous savez très bien qu'elles sont exceptionnelles.
Je dis qu'elles sont exceptionnelles, mais que les méthodes Montessori ne sont pas exceptionnelles, elles sont pratiquées dans beaucoup d'écoles maternelles, et je me réfère plutôt à Montessori comme méthode du
Maria
tout venant.
Maria Montessori, donc, qui fête d'ailleurs son centenaire, la grande pédagogue italienne.
Non, je dois dire qu'il y a une urgence aujourd'hui, pour moi, une véritable urgence, c'est de retrouver le sens de la mobilisation de la personne sur son travail.
Mais concrètement, réforme demain pour Xavier Darcos, l'urgence, c'est quoi pour vous ?
La réforme, c'est d'abord améliorer la formation des enseignants. Elle est beaucoup trop courte. Elle est infiniment trop courte. C'est 3 mois et demi en France par rapport aux 2 ans qu'il faudrait de formation réelle. C'est des petits établissements. C'est aussi travailler sur l'architecture scolaire. C'est travailler sur des programmes plus simples, plus lisibles, plus accessibles et qui permettraient aux enfants de s'y retrouver mieux et à leur famille aussi. C'est, je crois, de la même manière, faire de l'écrit une grande cause nationale.
Bien, écoutez, soyons plus concrets.
Il vous reste 30 secondes à peine.
30 secondes. Je constate avec satisfaction qu'avec M. Mérieux, nous avons des points d'accord très profonds sur la pédagogie, etc. Je lui suggère, s'il a quelque influence, et je crois qu'il en est, pour ce qui est de la formation des enseignants, qu'ils nous soutiennent dans notre désir au GRIP de participer au sein des UFM à cette formation, au même titre que tous les autres mouvements pédagogiques, nous n'en demandons pas plus.
Philippe Mérieux voulait bien aller chez les réacs de l'école.
Pour moi, je dis pas il y a les réacs et les pas réacs. On peut avoir des points d'accord, on peut avoir des points de désaccord. Il y a aujourd'hui, me semble-t-il, une situation qui nécessite qu'on regarde les problèmes indépendamment des clivages idéologiques, vous le disiez tout à l'heure.
Pour vous lire respectivement tous les deux, Philippe Mérieux, Pédagogie, le devoir de résister, ESF éditeur. Guy Morel apparaît fin septembre, La débâcle de l'école, une tragédie incomprise, sous la direction du grand mathématicien Laurent Laforgue et Liliane Lursa. Éditeur, François-Xavier de Guibert, à la réalisation Jean-Marc Meunier, à la technique Guillaume Lacroix. Pour réagir, pour nous questionner, pour râler, école@rfi.fr. On se retrouve la semaine prochaine à cette même heure pour une autre École des Savoirs. Et là, nous parlerons de la formation continue en Afrique.